Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui dans Podcasting, nous découvrons le parcours de Marc Planus. Dans son dernier numéro, Junk Page a rencontré l'ancien footballeur pour évoquer sa reconversion. Le titre de cet entretien, Relance propre, et c'est vous qui l'avez écrit, Thibaut Klein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pigiste à la rédaction de Junk Page et vous avez donc rencontré Marc Planus pour ce long entretien. Pour nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas fans de football, rappelez-nous la première carrière de Marc Planus.
Alors sa première carrière, c'est celle d'un footballeur professionnel, donc c'est un ancien footballeur de 40 ans qui s'est retiré en 2015. Entre-temps, il a passé 17 ou 18 ans aux Girondins de Bordeaux. Donc c'est un parcours un peu atypique dans le football moderne. C'est celle d'un joueur qui reste intégralement dans le même club. Donc c'est un Bordelais qui s'est donc formé dans son club, qui a passé toute sa carrière jusqu'à devenir international. Il a connu la triste Coupe du Monde 2010. Et donc là, c'était l'occasion de revenir un petit peu sur son après-carrière, quelques années après avoir rangé les crampons.
Vous l'avez donc rencontré pour parler de cette deuxième vie. Vous avez choisi de le rencontrer au Chartron, un quartier de Bordeaux. Pourquoi ce lieu ?
Tout simplement parce que c'est un peu le centre de sa vie. C'est là où il s'est installé. Donc c'est quelqu'un qui est né à Bordeaux, qui a grandi, qui ensuite s'est installé. Dans l'interview, on raconte que c'est là où il a acheté son premier immeuble dans l'idée déjà de faire travailler un peu son imagination dans l'idée de son métier d'après-carrière de footballeur. C'est toujours bien quand on rencontre quelqu'un pour faire vraiment un portrait très centré sur sa personnalité, de voir un petit peu dans son propre environnement, là où il a ses habitudes, là où il peut déjà se sentir bien, parce que c'est déjà, faut libérer un petit peu sa parole, et puis ensuite il peut plus facilement se raconter à travers un lieu qui vient de parcourir il y a quelques minutes par exemple.
Si on le décrit un petit peu, ce lieu, il ressemble à quoi ?
Alors la place des Halles des Chartrons, c'est justement une place que la mairie de Bordeaux veut, je crois, piétoniser bientôt. C'est une place très vivante de Bordeaux. Alors c'est moins l'aspect touristique, on va dire, proche du Grand Théâtre ou de la rue Sainte-Catherine. C'est un quartier peut-être un peu plus bordelot-bordelais, avec beaucoup d'habitués, des grandes terrasses. Quand justement on pointe le printemps, c'est très baigné de soleil, donc c'est très agréable. Mais du coup, ça m'a rendu Marc Planus très détendu, et du coup ça a fait un très bon moment, une super heure passée avec lui.
Planus est donc devenu décorateur d'intérieur après sa carrière de footballeur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous raconter cette histoire dans Junk Page ?
C'est le côté atypique. Disons que le footballeur tracte beaucoup de préjugés, on va dire, notamment au niveau culturel, sur un côté assez limité, du fait aussi un petit peu du fait que leur parcours soit très centré sur leur pratique du sport de haut niveau, ce qui est normal, hein. Il faut s'y consacrer à 100% hein, si on veut réussir une carrière dans le sport de haut niveau, pas seulement dans le football. Et donc là, c'était un domaine assez atypique, et puis pour lequel il y avait beaucoup de choses à dire, et où finalement, je me suis aperçu qu'il n'avait pas tellement eu l'occasion de le raconter, parce que les journalistes sportifs ont tendance à rester un petit peu dans leur couloir. Et donc là, l'idée, c'était à travers ce biais, de tordre un petit peu ce préjugé pour lui faire parler de ses goûts, comment ils ont grandi, comment ils se sont affirmés dans un environnement, dans le football, c'est pas forcément un milieu dans lequel on parle beaucoup de ça. Et donc là, c'était une occasion de revenir un petit peu vers quelqu'un qu'on avait un peu oublié, parce que 7 ans dans le sport, ça passe très très vite. Et puis de le faire parler de cette passion atypique.
Justement, comment est née cette passion chez lui ?
Alors, c'est venu très jeune. Alors, comment c'est venu exactement ? Je pense que c'est tout simplement à travers les endroits qu'il a pu apprécier. Il a beaucoup parlé d'un hôtel au Pila, un restaurant au Pila qui l'ont beaucoup marqué pour son environnement, son ambiance. Il aime beaucoup parler des environnements qu'il aime et dans lesquels il se sent bien. Et lui, son idée, c'était tout simplement d'être en mesure de pouvoir les reproduire. Donc pour ça, il a fallu qu'il s'affirme une culture. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé durant les rares temps de pause que sa carrière pouvait lui autoriser. Et donc du coup, on a un peu tiré le fil de cette affirmation de cette passion.
On la sent, cette passion, quand on échange avec lui ?
On la sent, oui, notamment quand on la met en parallèle avec sa carrière de footballeur, où finalement, il a très peu pu partager avec ses collègues footballeurs avec qui il a passé énormément de temps. Il y a très peu de gens avec qui il a pu partager cette passion. Aujourd'hui, il le fait de manière beaucoup plus libérée. C'était pas quelqu'un qui était très à l'aise avec les médias. Moi, j'ai souvenir de conférences de presse dans les entrailles du stade, où quelqu'un d'un peu nerveux, un peu tendu. Et puis, en fait, on se rend compte que sa passion du football a été supplantée par celle de l'architecture. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui avait un peu, sur la fin de sa carrière, qui était moins à fond, moins passionné par sa carrière de footballeur et du coup, qui ne pouvait pas vraiment parler de ce qu'il animait. Et là, ça a été vraiment le cas, oui. C'était une heure très, très riche.
D'un point de vue plus pratique, comment cet ancien footballeur a-t-il pu se former, monter sa société ? Est-ce qu'il a reçu de l'aide de l'extérieur pour se lancer ?
Alors, c'est quelque chose dont il a parlé vraiment avec beaucoup d'aisance. C'est le fait que être footballeur professionnel, ça donne un capital économique. Ça, c'est indéniable. Et c'est ce qui lui a permis de péter des barrières qui ont été difficiles sans ça à ouvrir, à fracasser. Donc simplement, il s'est rapproché d'un ami qui avait le capital culturel, la formation, qui était en mesure de monter une boîte sur l'aspect juridique, administratif. Lui, il avait l'envie, il avait la passion, il avait les idées, il avait, comme il dit, dans les avions, quand il allait jouer avec les Girondins à droite, à gauche, en Europe, lui, il avait toujours son critérium, sa règle. Donc lui, il avait l'aspect pratique et il avait l'envie de créer des choses. Après, tout le reste, il s'est formé sur le tas, tout simplement. Après, il raconte qu'à la fin de sa carrière, il a pris son bâton de pèlerin et puis il est parti et il est allé voir tous les lieux qui l'intéressaient. Il est allé rencontrer tous les gens, tous les professionnels pour qui il avait une forme d'admiration. Et tout simplement, il a échangé avec eux, quoi. Ce qu'il dit aussi, c'est que le préjugé du footballeur, il a agi aussi sur les gens de ce milieu-là qui pensaient tout simplement qu'il n'était pas sérieux et qu'il n'avait pas grand-chose à apporter à ce milieu. Et donc, comme au début de sa carrière, quand il a fallu s'imposer au milieu d'autres joueurs professionnels, là, il a fallu s'imposer au milieu d'un monde professionnel qui l'a regardé un petit peu. Il dit pas avec dédain, mais il dit quand même que ça a été un peu compliqué, au début de pouvoir s'affirmer.
Et dans son entourage, comment a été reçue cette idée de reconversion ? C'est peut-être un cliché, mais on imagine le monde du football professionnel parfois un peu éloigné de l'art ou de l'esthétisme.
Alors, sa carrière de footballeur, les gens qu'il a pu fréquenter à cette époque, il en parle vraiment au passé. Il y a un joueur avec qui il avait vraiment pu partager cette passion, c'était David Bellion, c'est un ancien joueur des Girondins, mais c'est un joueur sur les dizaines et les dizaines et les dizaines qu'il a pu croiser, que ce soit en club ou en sélection. Donc aujourd'hui, il a l'impression qu'il est un peu compartimenté. Ça fait 7 ans qu'il a arrêté sa carrière et il est vraiment passé à autre chose. Ça nourrissait l'aspect atypique de cette rencontre. J'ai essayé de le relancer d'ailleurs à la fin, notamment sur l'équipe de France, parce qu'il a connu un épisode vraiment très particulier de l'histoire de l'équipe de France. Mais il n'avait pas spécialement envie d'aller plus loin dans cette direction. Ce qui comptait, c'était sa nouvelle vie et qui est remplie de nouvelles personnes.
cette question de la reconversion chez les sportifs de haut niveau, elle est cruciale. Marc Planus a réussi, mais tout le monde n'y parvient pas non plus.
Il y a des exemples de fiasco. La vie d'un footballeur professionnel, c'est quelque chose qui est très peu commun. Alors, il y a une réalité souvent socio-économique qui est très divers. C'est vraiment, pour le coup, là, un milieu qui représente la France dans toute sa diversité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui arrive tout d'un coup. C'est pas facile à gérer. Ce qu'il dit aussi, c'est que il prend la métaphore de la machine à laver, c'est-à-dire quand on rentre dans le monde du sport pro et notamment le sport collectif comme le football, en fait, on est guidé à chaque pas. On ne prend plus tellement ses décisions. La vie est minutée, elle est gérée par d'autres. Donc c'est vrai qu'après, quand on sonne un peu les 35 ans, la fin de carrière, il faut se prendre en main. Il y a des gens qui arrivent justement avec des passions, mais il y a aussi des cas de banqueroute ou de gens qui sont des footballeurs qui sont abusés justement à cause de leur capital économique qui intéresse beaucoup de gens. Et ça peut créer des cas de désarroi et de catastrophe, c'est vrai.
Une dernière question sur les coulisses de votre article. Vous avez expliqué que Marc Planus était très enclin à parler de sa reconversion, qu'il était assez bavard. Contrairement au où il était footballeur. Les journalistes sportifs sont souvent confrontés à des éléments de langage aussi de la part des footballeurs, une communication un peu difficile. C'est un réflexe, on a l'impression que Marc Planus a gardé que justement quand vous avez évoqué cet épisode de Naïsna, la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud où les joueurs, si on résume, n'ont pas voulu descendre du bus.
Naïsna, c'était il y a 12 ans, mais on était déjà à l'époque de l'emballement médiatique total pour la moindre péripétie de vie de groupe qui finalement... Est-ce que ces péripéties ne concernaient pas que ces joueurs, ces 23 joueurs? On avait l'impression que c'était l'histoire de 65 millions de personnes. On se rappelle des répercussions au niveau du gouvernement, des déclarations de ministres. Enfin, ça avait été incroyable. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment blâmer des joueurs de choisir leurs mots, de ne pas aller sur des terrains qui peuvent être très très rapidement glissants, ne serait-ce que sur des commentaires strictement sportifs? En équipe de France, ça a été encore le cas récemment. Donc est-ce qu'on peut les blâmer, sachant que c'est pas ça leur vie professionnelle? Leur vie professionnelle, c'est d'être des sportifs de haut niveau, c'est pas tellement d'être capable de s'exprimer. Et c'est là où, en même temps, le travail du journaliste est intéressant. C'est comment faire pour faire passer une parole un peu neuve, un peu personnelle, enfin casser des préjugés dans lesquels eux-mêmes s'enferment, parce qu'ils ont l'impression de ne pas être autre chose que des footballeurs. C'est vrai que oui, il n'avait pas spécialement envie de parler du foot, mais au final, est-ce que moi j'avais spécialement envie qu'il s'exprime là-dessus? Non, ce qui compte aujourd'hui, c'était sa nouvelle vie et sa nouvelle carrière.
Merci Thibaut Klein, votre entretien avec Marc Planus est à lire dans le dernier numéro de Junk Page, numéro du mois de mai, et en ligne. Je rappelle le titre de votre article, Relance propre.
Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garay-Coetchea, Mathilde Leleuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.